On est en train d'étudier sur le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui est venu vers nous. Ce royaume-là est en train de se bâtir depuis 2000 ans. Depuis l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Ils naissent de nouveau parce qu'ils sont pardonnés, il y a un nouveau commencement avec le Seigneur, mais le Saint-Esprit rentre dans la vie des croyants, et à partir de ce moment-là, la vie des gens commence à changer. Moi, j'ai accepté le Seigneur il y a 42 ans, puis il a changé des affaires dans ma vie. Puis on vise à devenir comment? On vise à devenir comme Jésus, dans tous ses aspects. Lui, Jésus, là, c'est celui qui est parfait. Il a commis aucun péché. Il a vécu pleinement selon la volonté de son Père. Il est venu pour accomplir la loi, même la loi de Moïse. Il l'a accompli. Il a tout mis en pratique ce qui devait être mis en pratique. C'est fort. Puis là, il nous demande d'être comme lui, d'être des gens sans péché. C'est le but. Mais pour cela, il faut se laisser travailler par le Saint-Esprit. Faut étudier la parole, parce que c'est là qu'on a vu tantôt le renouvellement de l'intelligence. Là, ça se fait quand on apprend des choses sur la parole de Dieu. Des choses de Dieu, ses promesses, puis aussi on comprend les mécanismes, comment ça marche. Quand on est lié, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, tout ça, c'est des choses que le Saint-Esprit nous montre. On a besoin d'apprendre si on veut marcher dans sainteté. Là, on est en train de regarder depuis quelques semaines des choses que le Saint-Esprit veut produire en chacun de nous. C'est pas nécessairement naturel, c'est pas des choses qui étaient là avant de connaître Jésus, mais c'est des choses qui veut nous amener, qui veut faire en nous. Ça fait partie des choses nouvelles qu'il veut produire en nous. Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit veut développer en nous une vie enrichie. Quand que je parle enrichi, on parle de richesse. Une vie enrichie présentement dans son royaume, puis aussi enrichie dans l'éternité. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on est dans notre temps terrestre, là, c'est le temps d'en mettre de côté pour notre fonds de pension. Je parle pas du fonds de pension à 65 ans. Je parle du fonds de pension éternel. Tout ce qu'on fait présentement pour obéir au Seigneur, pour servir le Seigneur, on porte du fruit pour le Seigneur, mais on se ramasse un trésor dans les cieux. C'est celui-là qui est le plus important comme trésor. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il veut nous enrichir. Dans cette vie, il va pourvoir à tout ce qu'on a besoin, mais après, il veut pas qu'on arrive là puis être sur l'aide sociale pour l'éternité. Il veut qu'on soit dans l'abondance. Le coffre est très grand, puis il y a plein de choses qui ne périssent pas. Il n'y aura pas de rouille dans ce qu'on va avoir à l'autre bord, puis il n'y aura pas de mythe qui va venir manger nos affaires. C'est tout ce qu'on va avoir rendu l'autre bord, ça, on va l'avoir, puis en profiter éternellement. Jésus nous a donné une promesse extraordinaire. Il a donné ça à ses disciples dans Jean 10, le verset 10. Il nous parle comme une comparaison entre ce que le diable fait, puis ce que Jésus va faire. Ce que Jésus veut faire. Jésus a dit dans Jean 10:10, le voleur, en parlant du diable, il vient que pour dérober. Fait que le voleur vient pour voler. Dérober, ça veut dire voler. Il vole les gens. Il égorge, puis il détruit. Mais Jésus, il dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Comment est-ce qu'il y en a de personnes qui veulent avoir la vie? On est déjà des vivants physiquement. Jésus ne parlait pas de la vie physique, il parlait de la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, une vie sans fin. Dans sa présence, une vie de paix, de joie, d'amour. On va continuer à vivre une histoire, puis on va être là, puis on va faire des affaires, puis on va être heureux d'être là. Il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de larmes, plus de deuil. Il n'y a plus de mort. Quand on va être là, c'est une vie sans fin. Une histoire sans fin. voir le Seigneur de nos yeux. C'est lui qui s'est dit qu'il va éclairer toute cette nouvelle création-là par sa gloire, sa lumière. Il n'y aura pas de besoin de soleil ni de lune. C'est Jésus lui-même puis le Père qui va éclairer. Il n'y a pas d'Hydro-Québec l'autre bord. C'est la gloire de Dieu qui éclaire. Puis on va être super bien. Amen, c'est ce qu'on veut. Mais Jésus, il dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie. » Êtes-vous une brebis du Seigneur? Vous avez donné votre vie au Seigneur? Vous l'avez reçu comme votre sauveur? Mais vous avez été pardonné, vous appartenez au Seigneur, puis il dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » C'est déjà quelque chose que Jésus vous donne. Vous avez la vie éternelle. Il ne faut plus se regarder comme qu'on regarde les gens du monde. Les gens dans le monde, là, que ce soit nos parents qui sont pas chrétiens, nos amis qui sont pas chrétiens, nos voisins qui sont pas chrétiens, ils n'ont pas la vie éternelle. S'ils sont pas une brebis du Seigneur, ils n'ont pas la vie éternelle. C'est pour ça que c'est urgent, pour le temps qui reste, d'annoncer le message, pour que ces gens-là acceptent Jésus, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle. Jésus est venu pour nous donner cela. Mais ça s'arrête pas là dans sa phrase. Il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et, quand il y a un et, ça veut dire c'est une addition, c'est un bonus, quelque chose de plus que Dieu veut nous donner. Il veut qu'elle soit dans l'abondance. Ah oui, amen! Mais là, il y en a qui vont dire, tiens, il va prêcher la prospérité. Ben oui, il y a une prospérité dans le Seigneur. Moi, je suis pas comme j'étais quand j'ai accepté Jésus. J'étais bien plus pauvre que ça quand je suis venu au Seigneur. Je suis pas un riche, je parle pas du tout. J'ai juste ce qu'il me faut. Mais pour moi, je suis dans l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un toit sur la tête, j'ai le ventre plein, j'ai du linge sur le dos. J'ai même plein de beaux frères et sœurs qui sont là devant moi. On est bénis. On est riche devant Dieu, même si on a un petit compte de banque, c'est pas ça la richesse aux yeux de Dieu. C'est ça qu'on va regarder dans des passages. Mais il veut qu'on s'enrichisse dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Ça, il dit, mes brebis, ils vont être dans l'abondance dans le royaume de Dieu. Ça commence ici, mais c'est particulièrement pour l'éternité qu'il parle. Parce que quand on dit, je vais être dans l'abondance dans ma vie, vu que je sais que ma vie demeure éternellement, c'est quand que je vais vous dire, je vais être abondant. Déjà ici, présentement, je profite des choses qu'il me donne, je me sens béni, puis mes choix à l'autre bord, on va profiter aussi des choses qui nous attendent, parce qu'il prépare des choses pour nous. On va en parler aujourd'hui. Qui de nous qui est prêt à faire confiance au Seigneur afin d'avoir la vie puis d'être dans l'abondance? C'est ça qui est le but. Parce que si on dit, moi, ça m'intéresse pas d'avoir la vie ou ça m'intéresse pas d'être dans l'abondance, c'est sûr qu'on y demandera pas. Il nous bénira pas. C'est quiconque demande reçoit. Si tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur, c'est là qu'il va agir. Dieu veut répondre aux prières. Il veut répondre aux besoins, premièrement, pour que tu te sentes béni. Quand tu as tout ce qu'il te faut, tu es béni. On parle pas d'être millionnaire, là, on parle d'avoir ce qu'il nous faut. C'est ça l'abondance. Parce que le contraire de ça, c'est être dans la disette, puis c'est le manque. Il nous manque de tout. Quand il te manque la nourriture, il te manque le vêtement, puis il te manque un toit sur la tête, tu es dans la disette. Tout le monde sur la planète devrait avoir au moins ces trois choses-là afin de se sentir dans l'abondance. Je ne sais pas, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Je conseille à tout le monde, acceptez Jésus dans votre vie. Recevez-le comme votre sauveur, puis demandez-lui vos besoins. Être prêt à lui faire confiance. Faut pas penser, oh, moi je t'instruis, j'ai été à l'école, puis je suis capable de gagner ma vie, puis à penser d'y arriver dans l'abondance par mes propres capacités. Mais on risque de s'enfarger, puis on risque de faire banqueroute. nos capacités, là, parce qu'il y a la richesse de l'homme selon l'homme, puis il y a la richesse de l'homme selon Dieu, selon le regard de Dieu. Tu peux être riche pour les choses du monde, mais être considéré pauvre devant Dieu. Mais moi, je parle de devenir abondant et riche aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance au Seigneur? Jésus a dit à ses disciples dans Luc 12, à partir du verset 22, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, puis le corps est plus que le vêtement. » Fait que les choses les plus importantes pour quelqu'un, c'est de vivre, puis avoir son corps. C'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est accessoire. Il dit, « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont de cellier ni de grenier. Et Dieu les nourrit. » Il dit, « Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Dieu nourrit tous les oiseaux. À part que s'il n'y a pas une pollution qui vient et qui les tue toutes, là, d'habitude, les oiseaux vivent. Puis ils ont toujours de quoi manger, puis c'est Dieu qui pourvoit. Puis s'il est capable de pourvoir aux oiseaux, il est capable de pourvoir à chacun de ses enfants, à chacune de ses brebis, qu'il nous a promis qu'il nous donnera la vie, qu'on sera en abondance. Il veut qu'on apprenne à lui faire confiance. Il dit, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, puis de quoi vous allez être vêtu. Ça, quand ça nous vient, ces pensées-là, faut chasser ça. Puis il faut dire, Seigneur, moi, je m'inquiète pas. Je te fais confiance. J'ai des problèmes, là, j'ai des comptes à payer, là, puis je te fais confiance. J'ai besoin d'argent pour payer mon repas. Je te fais confiance, Seigneur, je me sens entre tes mains. Puis c'est de même que Dieu va commencer à pourvoir dans vos vies. Il va vous montrer qu'il est là en répondant à vos prières. J'ai vu des pasteurs, moi, partir à l'école biblique, là, pas de salaire, pas rien. Puis ils regardent aujourd'hui, ils ont tout le ventre plein, ils ont tout de quoi sur le dos, puis ils sont bénis dans le ministère qui servent le Seigneur. Ils n'ont pas manqué de rien, même s'il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Ils sont partis à l'école biblique, puis ils ont passé 3 ans de temps à étudier, puis Dieu a toujours pourvu à tout. J'en connais. Il y en a d'autres qui sont partis par la foi, s'en aller au Mexique, puis ont servi le Seigneur au Mexique ou dans un autre pays du monde. Puis Dieu a toujours pourvu, même si on n'avait pas de revenus. Je l'ai vécu quand je parle du Mexique, c'est moi qui y étais. J'en connais d'autres qui ont été. Puis Dieu, il m'a tout devant nous autres. C'est lui qui rouvre les portes, juste pour nous montrer qu'il est fidèle. Est-ce que quelqu'un a un doute sur la fidélité de Dieu? Si Dieu, il dit qu'il nourrit les oiseaux, il va-tu nous nourrir? Puis si t'es nourri, t'es l'homme le plus comblé de la planète. Il y en a qui n'ont pas de nourriture. Merci Seigneur. Ça dépend toujours comment est-ce qu'on focus devant Dieu. On va le voir dans d'autres versets. Jésus veut nous aligner dans le chemin qui nous rendra dans l'abondance. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous conduire. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à ce qu'on dépende de lui, puis qu'on s'attende sur lui, puis qu'on reçoive de sa part. Il veut nous conduire dans le chemin de l'abondance. Puis ce chemin de l'abondance-là, mais c'est de chercher son royaume en premier. On parle du royaume de Dieu. On va le voir dans Luc 12, le verset 29, à partir de 29, il dit, « Ne cherchez pas ce que vous mangerez puis ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, puis toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. » Quand on parle d'être aligné, là, quand on parle d'être aligné dans le chemin de l'abondance, mais il nous montre le chemin, c'est serre dans le royaume. Cherche le royaume et sa justice. Marche pour faire avancer le royaume de Dieu. Focus pour les choses de Dieu. Dieu, il le sait que ça nous prend de quoi manger. C'est lui qui nous a créé notre estomac. puis il nous a créé des dents, puis il nous a créé tout ce que ça prenait à pouchiquer, puis digérer. Il sait que ça en prend du stock qui rentre là-dedans. Il dit, casse-toi pas la tête, cherche pas les choses du monde, qu'est-ce qu'on va manger? Ça, c'est les gens qui n'ont pas de Dieu. Les gens dans le monde, les païens, ceux qui n'ont pas de foi, qui pensent comme cela à chercher à manger. Il dit, cherche le royaume, fais passer Dieu en premier, puis tu vas voir comment Dieu va pourvoir. Parce que Dieu, il est fidèle. Et tiens, amen là-dessus. Il dit, Dieu sait, votre Père sait que vous en avez besoin. C'est pas un extra à manger, c'est un besoin. C'est quelque chose qu'on a besoin tous les jours, manger. Puis il sait, il cherche le royaume, puis toutes ces choses-là vous seront données. Vous allez voir des miracles dans votre vie. Vous allez voir la puissance de Dieu à l'œuvre. On va apprendre à faire confiance à Dieu, puis à plus se casser la tête. Il y a beaucoup de problèmes dans la vie des gens, c'est dû à cause de se casser la tête. Des inquiétudes. Ils s'inquiètent, puis ils sont pas sûrs, puis ils ont des peurs, puis ils pensent que ça arrivera pas. Puis même pour des chrétiens, on donne notre vie au Seigneur, mais on n'a pas encore réalisé là que c'est le Créateur qui tient ma vie dans ses mains, puis il a dit qu'il pourvoira, puis il me l'a promis. J'ai pas à m'inquiéter. Toutes ces idées-là, faut chasser ça dans le nom de Jésus. Ça vient du diable, ça. C'est le diable qui fait des peurs dans le cœur des chrétiens. Des inquiétudes, des doutes, pour penser que ça arrivera pas. Dieu, il est fidèle. Dieu, qu'est-ce qu'il pourvoit, il est capable de le faire. Il a la puissance de le faire. S'il veut, là, il a juste à dire un mot, là, puis notre frigidaire est bien plein. Il peut. C'est arrivé. Il a jeté, il venait d'aller à la pêche toute la nuit, les disciples, il s'en revenait, il était quasiment rendu au bord. Au bord, il n'a pas de poisson. Mais Jésus, il a dit, jette ton filet. Il a été rempli de 153 grands poissons. Dieu a fait tourner le banc de poissons pour qu'ils viennent quasiment jeter dans le filet. Il a juste eu besoin de le retirer. Il avait pêché toute la nuit, il n'avait rien pogné. La puissance de Dieu était à l'œuvre, puis le filet a été rempli. On veut-tu voir des filets se remplir? Achetez-vous un filet. La parole de Dieu nous parle de la vraie richesse. Moi, je pense que quand tu vois Dieu répondre à des prières, c'est de la richesse. C'est de la bénédiction, c'est d'être comblé. Mais il veut nous le montrer, des vraies richesses, mais pas dans les choses matérielles. Si on focus comme moi, pour moi, la richesse, d'avoir un gros compte de banque, un gros chiffre dans le compte de banque, ou d'avoir beaucoup de biens, ça, c'est de la pauvreté aux yeux de Dieu. C'est pas ça d'être riche pour Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété, mais avec le contentement. Oui, on acquiert beaucoup quand tu es une personne pieuse, une personne qui prie, tu vas acquérir beaucoup. Mais faut que tu aies du contentement. Parce que si on est cupide, puis notre but, c'est ramasser de l'argent, puis ramasser des biens. Ça, c'est un péché devant Dieu. Il dit de rechercher ce qui est nécessaire, mais en premier, recherche le royaume de Dieu. Investis pour le royaume de Dieu. Là, tu vas devenir riche pour Dieu, puis là, Dieu va pourvoir à tout ce que tu as besoin. Tu vas apprendre à vivre différemment. En faisant confiance que Dieu va te donner ce que tu as besoin, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Il dit, en continuant au verset 7, « Nous n'avons rien emporté dans le monde, puis il est évident que nous n'en pouvons rien emporter quand on va partir. Tout ce qui est là, comme bien, que ce soit gros compte de banque, que ce soit bien matériel, on n'a rien emmené quand on est au monde, mais ça va tout rester là quand on repart. Fait que notre vie va-t-elle être dans l'abondance dans la suite? C'est là la question. Parce que si mon focus est que pour les biens terrestres, quand je meurs, il me reste plus rien. Tout ce qui va rester, c'est que j'ai fait pour le royaume de Dieu. Puis Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Il veut qu'on focus sur les vraies choses. les choses qu'on vit ici, là, combien de temps qu'il nous reste à vivre, là. Moi, j'en ai beaucoup plus de fêtes qu'il m'en reste à faire. Il m'en reste pas long. Puis si mon focus n'est que pour accumuler des biens, je perds de l'argent quelque part. Ben, j'investis pas à bonne place. C'est comme l'idée d'investir à la bourse, à cet incite. Si tu veux perdre ton argent, envoie-en dans la bourse, tu vois ça, tu vas en perdre. Ton argent s'efface, la bourse. Il y en a plein de monde qui perdent. Ils investissent de l'argent, puis le compte, il diminue. Puis ça, là, c'est de l'argent mal placé. Malade pour le royaume de Dieu, ton argent, là, puis tu vas voir ton chiffre de banque céleste va monter. Tes richesses vont s'accroître. Mec, tu meurs dans pas long, on va tous mourir dans pas long, j'espère que je vous surprends pas, mais on va tous mourir dans pas long. Ou soit qu'on est enlevé ou qu'on meurt, mais on part d'ici, ça c'est un fait, puis on va vivre la vie sans fin par après, puis notre richesse, notre abondance, je pense la seule qui est plus importante, c'est celle qu'on va avoir après. C'est ce qu'il essaie de nous expliquer au verset 8. Il dit, pour ici, là, si donc nous avons la nourriture puis le vêtement, cela nous suffit. Puis ça, il continue, mais ceux qui veulent s'enrichir ici tombent dans la tentation, dans le piège. C'est un piège pour t'empêcher de t'enrichir puis de recevoir les bénédictions de Dieu. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine puis la perdition. C'est pas dans la richesse qui plonge, c'est dans la ruine. Parce que tu en perds tout en quittant. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Puis quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi. Parce que la foi veut nous amener à investir pour le royaume de Dieu. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Puis là, il nous dit une phrase, là, écoutez bien celle-là. Pour toi, homme de Dieu. Y a-tu des hommes de Dieu ici? C'est pour chacun de nous, cela, ce qui est écrit. Il nous enligne dans quelque chose qui va être payant. Fuis ces choses, la poursuite des richesses, puis recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Recherche les choses de Dieu. C'est de même que tu vas t'enrichir. C'est de même que ton compte de banque va grandir. Ouais. Il a dit, cherche le royaume, puis il dit, je vais te donner tout le reste par-dessus. Jésus veut qu'on focalise sur la richesse permanente, les richesses célestes. Dans Luc 12, 33 et 34, il dit, « Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, puis faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, puis où ce que la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Qu'est-ce qu'on veut, frères et sœurs? Jésus veut nous rendre dans l'abondance. Il veut nous rendre riches. Mais il ne focus pas pour la richesse d'ici. C'est de l'argent perdu. C'est pour la richesse à venir, la permanente, l'éternelle, où ce qui n'a pas de valeur. Tu n'as même pas besoin de barrer ta porte, l'autre bord. Il n'y aura pas de valeur et les voleurs ne pourront pas rentrer. Il y a juste ceux qui marchent dans justice, puis dans droiture, puis dans sainteté, qui ont marché en Jésus, qui vont rentrer. Il dit, vends tout. Fait que ce qui est nécessaire pour la vie, c'est correct. Là, ça prend des outils, ça prend des affaires pour travailler dans nos métiers, tout ça. Je suis d'accord. Mais des fois, il y a des extras qui sont mal placés, c'est de l'argent mal placé, si on pense en fonction de ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, il voudrait qu'on investisse pour devenir riche pour lui. Il y a plusieurs versets qui nous parlent de donner. Puis ça, là, c'est le moyen de recevoir. Quand tu fais partie du royaume de Dieu. On est devant Dieu, là, puis on est tous devant Dieu. Dieu nous connaît parfaitement. C'est comme s'il nous aurait tricoté. Il sait vraiment tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, notre manière de concevoir les choses, nos buts, nos objectifs. Notre cœur, il est où? Il sait où ce qui est notre cœur. Il est-tu dans les choses terrestres ou dans les choses célestes? On est-tu des gens qui ont tout abandonné pour le suivre ou on recherche que les choses matérielles? On fait-tu passer le royaume de Dieu en premier? Puis on focus-tu pour l'avancement du royaume? Dans Luc 6, 38, il dit « Donnez, puis il vous sera donné. » On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. On est-tu des gens gratteux pour le royaume de Dieu, ou on est des gens généreux? Faut y penser, on est encore ici, on est dans le temps de travailler encore, on est dans le temps de s'investir de plus en plus, puis c'est là que Dieu dit, donne, puis tu vas voir ça, tu vas recevoir. Tu vas recevoir ici, mais tu vas recevoir l'autre bord aussi. Si on y croit vraiment qu'on rentre dans la vie éternelle, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus grand que cela, là, de savoir qu'on a la vie éternelle, puis on va vivre sans fin. Ça vaut la joie de s'investir. Pour pas dire que ça vaut la peine, c'est pas une peine là, de s'enrichir pour Dieu, pour notre éternité. C'est une joie, ça vaut la joie de s'enrichir. Ceux qui épargnent pensant s'enrichir, ils savent pas qu'ils sont en train de s'appauvrir. Ça le dit dans la parole de Dieu, dans Proverbes au chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Puis tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça, ce verset-là a été dit en fonction du royaume, puis en fonction de l'éternité. T'épargnes à l'excès, là, t'es en train de t'appauvrir. Puis celui qui donne libéralement, c'est qui est lousse, qui est généreux, bien, il est en train de devenir plus riche. C'est de même que Dieu voit les choses. C'est complètement contraire à notre nature humaine. C'est pas naturel. Tu dis ça à quelqu'un qui est dans le monde, ben voyons donc, ça n'a pas de bon. Parce qu'il ne peut pas comprendre les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on les juge. Il faut que tu sois né de nouveau et que tu comprennes le plan de Dieu pour réaliser où est-ce qu'elle est la vraie richesse. La vraie richesse, c'est qu'est-ce que tu fais pour le royaume. Le reste va être perdu quand on va quitter ce monde. C'est pour ça que si on a bien accumulé, ça va aller à qui? Quelqu'un qui va dilapider ça dans 2 semaines? À quoi ça aura servi pour Dieu? À rien. Là, je parle de même, mais je me parle aussi. Là. Moi, je crois à 100% ce que je dis là. J'y crois à 100%. Dans le Seigneur, c'est les plus généreux qui s'enrichissent. Ça a de l'air fou, mais c'est une vérité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 9, 6, ça dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Dieu voit tout ce qu'on fait. On peut rien y cacher, puis il oublie pas non plus. Je le répète souvent, parce que des fois on a peur, puis on pense qu'on se fait un sacrifice, on se prive de quelque chose pour donner, puis on pense que d'un coup que je perds, là, puis là on pense qu'on est en train de perdre parce qu'on le donne. On ne perd rien, on est en train de donner à Dieu. Si tu donnes aux pauvres, là, tu prêtes à Dieu, Dieu va te le remettre. Oui, Dieu veut qu'on découvre la joie qu'elle a dedans de donner. Si tu sèmes peu dans ta vie, là, mais tu vas moissonner peu. Dieu, dans un sens, il nous reste libre, hein? Il nous reste libre, il force pas, il tombe pas de bras, tu perdras pas ton salut. Si tu as la foi en Jésus, puis tu marches avec Jésus, mais t'es gratteux quand tu donnes presque pas, ou tu te prives de rien pour donner. Tu penses, mais Dieu, lui, il est extra riche, mais il a fait la vie pour nous donner de devenir abondant. Il veut qu'on soit abondant. Mais faut que tu rentres dans son plan pour pouvoir devenir riche. Faut y faire confiance, faut marcher par la foi. Faut croire que Dieu, c'est ce qu'il veut, qu'on soit tous des gens généreux. C'est de même qu'on va s'enrichir devant lui. Peut-être pas tout de suite, je suis d'accord, peut-être pas tout de suite, mais on manquera de rien. Puis en plus, on va tomber riche, mais qu'on arrive l'autre bord. Parce que c'est déjà accumulé, puis il n'y a pas personne qui va vous voler ce que vous avez déjà d'investi. Mais on se moque pas de Dieu. Dieu l'établit, cette règle-là. Savez-vous qu'il y a deux choses que Dieu aime particulièrement? Dans Hébreux 13, le verset 16, ça nous dit « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Savez-vous c'est quoi de la bienfaisance, des œuvres de bienfaisance? Bien, c'est des bonnes œuvres. Que ce soit des dons de bien ou des dons en argent ou des dons de ton temps, c'est un œuvre de bienfaisance. Dieu aime la bienfaisance. Il aime ça quand on partage ce qu'on a, qu'on donne ce qu'on a, que ce soit en bien, que ce soit en argent, que ce soit en temps, qu'on soit généreux pour l'œuvre de Dieu à se donner. C'est ça qu'on disait dans les chants tantôt. Je te donne mon cœur. Il veut notre cœur, mais il veut plus que ça. Si tu lui donnes juste ton cœur, mais toute ta vie tu gardes pour toi, tu n'es pas encore dans le plan à 100%. Si tu veux t'enrichir, le plan c'est sois généreux, donne de tes biens, donne de ton argent, donne de ton temps. Il aime la bienfaisance et la libéralité. La libéralité, c'est une contribution volontaire. C'est une assistance. Quand tu aides les pauvres, tu aides les gens, tu assistes de tes biens. Les gens, mettons, ils se retrouvent dans la rue, tu les emmènes chez vous, puis ils dorment chez vous pendant X temps. Ce que tu as, tu le mets au service des autres. C'est ça de la libéralité. Mais la bienfaisance, faire des bonnes œuvres en don ou de faire des assistances, des contributions volontaires en argent ou en temps ou avec tes biens, tout ça, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voulez-vous faire plaisir à Dieu? Commencez à faire profiter aux autres de ce que vous avez. En premier, à Dieu, tu dis, Seigneur, il y a déjà ce qui te revient, je te le donne, puis là, dans la semaine, là, pendant qu'on n'est pas ensemble, il y a des besoins, vous apprenez là, que quelqu'un a besoin. C'est ce qu'on veut faire, nous autres, on garde la nourriture, si quelqu'un a besoin, on va lui en donner. Mais l'Église, à faire des œuvres de bienfaisance. C'est pour ça qu'ils appellent ça une église quand on reçoit notre charte. C'est un organisme de bienfaisance, une église. C'est pour donner. Faire participer aux autres. Quand vous donnez ici, dans l'église, on achète des choses, puis on donne. Il y a des gens qui ont reçu, qui n'avaient plus rien à manger, puis étaient bien contents. C'est une des choses que Dieu veut qu'on fasse. Dieu prend plaisir de voir cela. Puis il y a une façon que Dieu aime nous voir donner. Autant qu'il aime nous voir donner, mais il y a juste une façon qu'il aime à nous voir donner. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun de vous donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. La tristesse puis de la contrainte quand on donne. Je te donne ça, là. Mais là. Tu pleures en donnant. Ça, c'est de la tristesse. Il y a vraiment quelque chose. Pensez-vous que Dieu ne voit pas comment ce qu'on donne? Puis de l'autre côté, de la contrainte. Oh! Le pasteur passe son temps à prêcher sur « faut donner, je suis obligé, il me tord le bras, là, je suis obligé de donner. » Mais c'est ça, se sentir forcé de donner. Faut pas faire ça de cette façon-là, faut le faire avec joie. Bien sûr, il y a un besoin, tiens, suite la main dans les poches, prête à dégainer, prête à donner, pour que les gens soient bénis. Puis quand chaque fois, puis ça je l'ai appris des Juifs, là. Chaque fois qu'un pauvre se présente devant les Juifs, pour eux, ils se réjouissent que Dieu m'a devant eux une opportunité de donner. C'est l'occasion-là qui a été mise là devant eux pour pouvoir donner. Ils en profitent. Peu importe ce que tu donnes, l'idée n'est pas la quantité, c'est que tu donnes avec joie. Sois heureux de donner. Puis là, quand tu vas donner, les personnes qui sont là, ils vont se sentir bénis, puis ils vont glorifier Dieu. Apprendre à donner ce que tu as décidé, parce que là, il dit, donne ce que tu as résolu. Demande au Seigneur, là, combien il faut que tu donnes, puis à quoi faut que tu donnes, puis quand... Il va tout te montrer ça. Il va te le montrer, il va te le mettre à cœur. Là, tu vas pouvoir donner, puis là, tu vas être heureux. Mais tu vas l'être avant en donnant, parce qu'il faut que tu donnes avec joie. Si tu as de la tristesse pour donner, si tu as de la tristesse, tu as de la misère à donner, comme j'ai dit, c'est pas naturel. Le Saint-Esprit veut nous amener dans l'abondance, mais il faut qu'il change des choses dans nos cœurs pour qu'on soit des gens généreux. Puis quand tu vas le faire avec joie, ça, tu vas être autant heureux, parce qu'il y a un autre verset qui dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Tu vas être heureux quand tu vas te mettre à donner. Il faut réaliser que la source de notre abondance, c'est Dieu. S'il veut Dieu, là, demain matin, t'as un job qui 100 000 $ par année. C'est rien pour lui. Il peut faire ce qu'il veut, comme qu'il veut. Il est pas obligé de le faire, mais ça lui fait plaisir aussi de faire plaisir à du monde qui lui fait plaisir. Parce qu'il dit, si t'es généreux, puis tu fais de la bienfaisance puis de la libéralité, il dit, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Puis si Dieu prend plaisir en toi, mais ça va y faire plaisir aussi de te le remettre. Puis en plus, qu'est-ce que tu te ramasses dans l'éternité? Faut réaliser que c'est Dieu qui est la source de toute notre abondance. Il nous donne même pour qu'on soit capable de donner. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 10 à 11, ça dit, « Celui, en parlant de Dieu, qui fournit la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera sa semence, puis il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez en sorte enrichi à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » On voit là-dedans que c'est lui qui pourvoit, c'est Dieu. Il fournit la semence pour que tu puisses semer, puis en plus, il va te donner la nourriture que tu as besoin de manger, puis il va augmenter ton fruit de justice. C'est quoi un fruit de justice? C'est d'être une personne juste. Une personne juste, c'est quoi? Une personne qui chaque occasion, bénit les autres. Chaque occasion, tu marches dans la sainteté, mais tu es un homme qui pourvoit aux besoins des autres. Comme on voit dans l'histoire de Job, quand il parlait de lui, c'est un gars qui prenait soin des gens qui étaient pauvres. C'est un gars qui était au-devant des autres, puis il aidait, puis il donnait des bonnes paroles. Puis tu le vois, c'était ça son témoignage. Ça ne l'a pas empêché d'être attaqué par l'ennemi, mais c'est un homme qui est intègre. Puis Dieu avait donné un témoignage de qu'il n'avait pas d'autre comme Job. Un gars intègre, un gars juste, un gars qui marchait à droite. Mais on parle pas de la tentation, Job, mais on parle de sa vie exemplaire avant qu'il connaisse ses épreuves. Puis Dieu le bénit en double après ça, à la fin. Amen. Mais Dieu s'attend à ce qu'on soit des gens de justice, nous aussi, des gens comme Job, des gens qui sont prêts à bénir et à aider tout le monde, puis ils le font avec joie. Dieu prend plaisir à cela. Dans l'ancienne alliance, Dieu a expliqué ce qui revient de droit à Dieu en tant qu'il est Dieu, parce qu'en réalité, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Dans l'ancienne alliance, dans le temps de la loi de Moïse, dans les revenus, là, il y avait une part qui revenait à Dieu. Il dit dans Lévitique 27:30, « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Dans la loi de Moïse, c'était obligatoire, tout le monde devait mettre de côté 10% de leur offrande. 10% de tout ce qu'il y avait. Dans le Nouveau Testament, ça nous dit pas de loi comme obligé. Il n'y a aucun verset qui dit que tu es obligé. Dieu, comme je l'ai dit tantôt, il nous a resté 100% libre de donner comme qu'on veut. Mais si on sème peu, on va moissonner peu. Mais il nous dit quand même qu'il y a une part qui revient à Dieu. Puis si lui, dans son cœur, c'était 10% dans l'Ancien Testament, plus les offrandes pour les péchés, puis les sacrifices d'action de grâce, plus toutes les offrandes ou les dons ou aider quelqu'un, tout ça, ça existait. C'était de même dans l'Ancien obligatoire. Aujourd'hui, dans le Nouveau, il dit qu'il y a encore une part. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Galates 6:6. Que celui à qui on l'enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On voit qu'il y a encore le principe de faire une part, mais ils ne disent pas combien. Moi, je suis pas le genre à obliger parce que je sais que je vois pas de verset qui oblige, mais je dois vous dire qu'il y a une part qui appartient à Dieu. Tout ce que vous avez, là, tout ce que vous êtes à Dieu. Il vous a racheté. On lui appartient. Tout ce qu'on a lui appartient. Tout ce qui est produit dans notre vie comme bénédiction, là, comme richesse, appartient à Dieu. Mais il y a une part qui doit y revenir. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la parole qui l'enseigne. Puis il y a un autre passage qui dit la même idée. Puis ça dit, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça veut dire, Dieu avait déjà prévu de donner des ministères dans les églises, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, des gens qui sont dans le ministère pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis les gens doivent soutenir financièrement par l'apport qui revient à Dieu. Fait que quand on pose des offrandes, vous êtes en train de participer à l'avancement du royaume de Dieu.
Parce que les églises aujourd'hui marchent avec les dîmes.
Avec les quoi?
Avec les dîmes, parce que ça paye le pasteur, ça paye le
bâtisse. Ben, toutes les offrandes qu'on reçoit, là, c'est sûr que ça paye les frais. En théorie, là, on devrait payer les pasteurs, on paye les invités, on devrait payer tout, faut payer le local, faut payer l'électricité, puis faut payer aussi pour les projets, tout ce que l'Église fait. Merci Seigneur, on a des possibilités d'être dans l'évangélisation. Ça avec, ça coûte de l'argent. Puis on veut soutenir, aider les pauvres, puis aider les choses. On fait ces choses-là, mais faut toujours que les brebis réalisent que c'est pas une chose juste dans l'ancien qu'il fallait qu'ils donnent un dixième pour donner pour l'avancement du temple, puis payer les salaires des sacrificateurs. Mais dans le nouveau, il dit pas de montant, mais il dit vous avez une part à donner.
Parce que la pauvre veuve a
donné 40. Oui, je vais le dire dans l'autre verset. Quand il parle de part, là, le mot part, fasse part de tous ses biens, c'est se joindre comme associé, devenir participant. C'est ça que ça veut dire, d'être un partenaire. Faire une part, là, c'est pour devenir partenaire de l'avancement du royaume, de l'œuvre que dans l'Église que vous faites partie. Vous êtes un partenaire pour subvoir aux besoins des ouvriers qui sont devant et des ministères qui sont en action, les choses qui se développent, que ce soit pour l'évangélisation ou les activités dehors, n'importe quoi. Ça prend de l'argent aujourd'hui, on n'a pas le choix. Dans l'Église primitive, quand je parle des premiers chrétiens, on voit ça dans les Actes des apôtres, les dons étaient apportés aux pieds des apôtres. C'est exactement la même affaire. Les membres de l'Église de Jérusalem amenaient le don puis donnaient ça aux pieds des apôtres. On voit ça dans Actes 36, le verset et 37. Dans Joseph, ça dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. C'est un Lévite, un originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, puis apportait l'argent, puis le déposa aux pieds des apôtres. Mais il n'y a pas rien que lui, il y a d'autres choses que tu vois. Quand il donnait l'argent pour le Seigneur, il donnait l'argent aux pieds de l'Église qui était là. Ça, c'est un symbole, aux pieds des apôtres. Là. Il ramassait les offrandes pour l'Église de Jérusalem. Puis l'Église de Jérusalem distribuait pour les ministères, puis l'œuvre qui aurait été faite avec cet argent-là. C'est de même, ça marche, c'est de même que Dieu a préparé son plan. Vous pouvez aussi, en plus, donner d'autres choses à l'œuvre. Si vous rencontrez du monde dans la semaine puis ils ont besoin, soyez généreux aussi avec eux autres. Mais en premier, il y a une part qui revient à Dieu dans ce que vous avez. Puis il faut la donner pour l'avancement de l'œuvre dans l'Église que vous participez. C'est de même que Dieu a fait le système. Dieu voit très bien si nous sommes généreux ou avares pour son royaume. Si on est capable on va le voir dans un passage dans Luc, c'est le passage qu'on a parlé tantôt. Luc 21, les versets de 1 à 4. Jésus nous a donné cet exemple-là pour parler comme quoi que Dieu voit tout. Jésus avait vu en cette occasion-là ce qui s'est passé. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait deux petites pièces. Puis il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis beaucoup plus que tous les autres. Elle a juste mis deux petites pièces, puis Jésus a dit que cette veuve-là a donné plus que toutes les riches. » C'est fort. Au verset 4, il dit, « Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voyez-vous, Dieu, là, il voit si ça nous coûte quelque chose quand on fait quelque chose. Il voit si on fait un effort. Si on est prêt, même comme la veuve, à s'y priver ce qui aurait été nécessaire pour elle. Une veuve, là, il n'y avait pas de revenus dans ce temps-là. Elle avait deux pièces, puis elle les a données dans le tronc. C'était qu'est-ce qu'elle avait pour vivre? C'était sa nourriture de la semaine, peut-être? Elle s'est sacrifiée en faisant confiance à Dieu. Je dis pas de tout vous jeter dans la rue, puis de tout vendre. Je vous demande pas ça, mais il faut quand même réaliser, si Jésus a dit ça, c'est parce qu'il voulait qu'on prenne conscience comment est-ce qu'il voit les choses, d'être généreux. Puis si on donne, là, on peut être beau donner 300$ cette semaine-là, si t'en as gagné 20 000, ça t'a pas fatigué ben, c'était le change que tu avais dans tes poches. Tu sais, ça t'a pas été privé sur rien. Moi, ça me dérange pas du tout ce que vous donnez. Mais je dois vous dire ce que Jésus dit dans sa parole. Lui, il va évaluer vos récompenses dans l'éternité face à comment est-ce que vous vous engagez dans vos dons. Être fidèle, c'est ça qui est important. Il faut apprendre à être fidèle avec les richesses qui appartiennent à Dieu et à son royaume. Il y en a qui deviennent extrêmement riches, sont millionnaires, là, puis là, ils profitent de leur affaire. Correct. Ils profitent de leur affaire, mais faut que tu penses à Dieu. Si Dieu te rend millionnaire, c'est pour l'avancement de son œuvre, pour son royaume en premier. Bon, on est tous contents quand on parle du riche. Le riche, là, ah oh oui, lui qui donne, amen. Puis quand c'est le pauvre, le pauvre, lui, là, c'est... Je pense que la majorité d'entre nous, on est tous pauvres. On a juste ce qu'il faut. Puis si on considère, si on a un paquet de dettes, on a plus de dettes que qu'est-ce qu'on a de liquidité. Quand tu donnes de quoi, là, ça coûte quelque chose. Il y a des privations. Des fois, même, il y en a que j'ai déjà vu, ils n'ont pas été manger au restaurant pour avoir de quoi donner à quelqu'un. Mais Dieu voit ça, c'est ça des privations. Puis c'est ça qui rend plus riche pour Dieu. Comme la veuve, c'est à son nécessaire, elle l'a donné, puis elle a béni Dieu. Dieu l'a vu, Jésus en parle, il en a parlé, puis on en parle encore 2000 ans plus tard. C'est un acte remarquable. Puis Dieu veut faire la même chose avec chacun de nous. Il veut faire de nous des gens remarquables, remarquablement généreux. Amen. C'est pas à moi que vous dites amen, c'est à Dieu. Soyons fidèles avec les richesses qui appartiennent à Dieu. Dans 1 Corinthiens 16, 2, ça dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, encore l'idée de mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Fait que faut être des gens quand on dit qu'on est fidèle, qu'on mette à part d'avance. Mettez de l'argent d'avance là, à part pour donner quand c'est le temps de donner. Si c'est pour l'œuvre de Dieu, préparez-vous. Puis si vous dites, moi je ne sais pas combien il faut donner, ben j'ai pas dit combien, demandez-les à Dieu. Demandez à Dieu combien ce qu'il vous donne, que vous devez donner. C'est entre vous et Dieu, puis s'il vous montre quelque chose, soyez fidèles dans ce qu'il vous a demandé. Puis vous allez voir, Dieu après ça va vous le rendre. Ça fait partie de ce qui est nécessaire pour l'avancement de son royaume. Et il dit, mettra à part ce que vous pouvez, selon votre prospérité, puis donnez avec joie. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes ces révélations. On veut embarquer, Seigneur, dans ton plan. On veut devenir riche pour toi, pour ton royaume. Je le sais, Seigneur, que le temps est court. Guide-nous dans tout cela. Apprends-nous à être généreux. Que ce soit une nouvelle nature en nous, par la nouvelle nature, qu'on puisse devenir des gens libéraux puis bienséants. On veut te faire plaisir, Seigneur. On veut que ton royaume avance. Garde nos regards pour à chercher ton royaume en premier. Puis merci de ce que tu vas faire dans la vie de chacun. Je te demande de bénir chacun de mes frères et sœurs dans le nom de ton fils Yeshua. Amen.